L'éducation sentimentale, deuxième partie, chapitre 2. Frédéric trouva, au coin de la rue Rainfort, un petit hôtel et il s'acheta tout à la fois le coupé, le cheval, les meubles et deux jardinières prises chez Arnoux pour mettre aux deux coins de la porte dans son salon. Derrière cet appartement était une chambre et un cabinet. L'idée lui vint d'y loger des lauriers. Mais comment la recevrait-il, elle, sa maîtresse future? La présence d'un ami serait une gêne. Il abattit le refend pour agrandir le salon et fit du cabinet un fumoir. Il acheta les poètes qu'il aimait, des voyages, des atlas, des dictionnaires, car il avait des plans de travail sans nombre. Il pressait les ouvriers, courait les magasins et, dans son impatience de jouir, emportait tout sans marchander. D'après les notes des fournisseurs, Frédéric s'aperçut qu'il aurait à débourser prochainement une 40 000 francs, non compris les droits de succession, lesquels dépasseraient 37 000. Comme sa fortune était en biens territoriaux, il écrivit au notaire du Havre d'en vendre une partie pour se libérer de ses dettes et avoir quelque argent à sa disposition. Puis, voulant connaître enfin cette chose vague, miroitante et indéfinissable qu'on appelle le monde, il demanda par un billet aux Dambreuses s'il pouvait le recevoir. Madame répondit qu'elle espérait sa visite pour le lendemain. C'était jour de réception. Des voitures stationnaient dans la cour. Deux valets se précipitèrent sous la marquise et un troisième, au haut de l'escalier, se mit à marcher devant lui. Il traversa une antichambre, une seconde pièce, puis un grand salon à haute fenêtre et dont la cheminée monumentale supportait une pendule en forme de sphère avec deux vases de porcelaine monstrueux où se hérissaient, comme deux buissons d'or, deux faisceaux de bobèches. Des tableaux, dans la manière de l'espagnolet, étaient appendus au mur. Les lourdes portières en tapisserie tombaient majestueusement, et les fauteuils, les consoles, les tables, tout le mobilier, qui était de style empire, avait quelque chose d'imposant et de diplomatique. Frédéric souriait de plaisir, malgré lui. Enfin, il arriva dans un appartement ovale, lambrissé de bois de rose, bourré de meubles mignons, et qu'éclairait une seule glace donnant sur un jardin. Madame Dambreuse était auprès du feu. Une douzaine de personnes formant cercle autour d'elle. Avec un mot aimable, elle lui fit signe de s'asseoir, mais sans paraître surprise de ne l'avoir pas vue depuis longtemps. On vantait, quand il entra, l'éloquence de l'abbé Cœur. Puis on déplora l'immoralité des domestiques à propos d'un vol commis par un valet de chambre. Et les cancans se déroulèrent. La vieille dame de Somory avait un rhume. Mademoiselle de Turviso se mariait. Les Moncharon ne reviendraient pas avant la fin de janvier. Les Bretoncourt non plus. Maintenant, on restait tard à la campagne. Et la misère des propos se trouvait comme renforcée par le luxe des choses ambiantes. Mais ce qu'on disait était moins stupide que la manière de causer. Sans but, sans suite et sans animation. Il y avait là, cependant, des hommes versés dans la vie. Un ancien ministre, le curé d'une grande paroisse, deux ou trois hauts fonctionnaires du gouvernement. Ils s'en tenaient aux lieux communs les plus rebattus. Quelques-uns ressemblaient à des douairières fatiguées. D'autres avaient des tournures de maquignons. Et des vieillards accompagnaient leurs femmes dont ils auraient pu se faire passer pour les grands-pères. Madame Dambreuse les recevait tous avec grâce. Dès qu'on parlait d'un malade, elle fronçait les sourcils douloureusement et prenait un air joyeux s'il était question de bal ou de soirée. Elle serait bientôt contrainte de s'en priver, car elle allait faire sortir de pension une nièce de son mari, une orpheline. On exalta son dévouement. C'était se conduire en véritable mère de famille. Frédéric l'observait. La peau mate de son visage paraissait tendue et d'une fraîcheur sans éclat, comme celle d'un fruit conservé. Mais ses cheveux, tire-bouchonnés à l'anglaise, étaient plus fins que de la soie, ses yeux d'un azur brillant, tous ses gestes délicats. Assise au fond, sur la causeuse, elle caressait les floches rouges d'un écran japonais, pour faire valoir ses mains, sans doute, de longues mains étroites, un peu maigres, avec des doigts retroussés par le bout. Elle portait une robe de moire grise, à corsage montant, comme une puritaine. Frédéric lui demanda si elle ne viendrait pas cette année à la Fortelle. Madame d'Ambreuse n'en savait rien. Il concevait cela, du reste. Nos gens devaient l'ennuyer. Les visites augmentaient. C'était un bruissement continu de robes sur les tapis. Les dames, posées au bord des chaises, poussaient de petits ricanements, articulaient deux ou trois mots, et, au bout de 5 minutes, partaient avec leur jeune fille. Bientôt, la conversation fut impossible à suivre, et Frédéric se retirait quand Madame d'Ambreuse lui dit « Tous les mercredis, n'est-ce pas, Monsieur Moreau ?» rachetant par cette seule phrase ce qu'elle avait montré d'indifférence. Il était content. Néanmoins, il huma dans la rue une large bouffée d'air, et, par besoin d'un milieu moins artificiel, Frédéric se ressouvint qu'il devait une visite à la maréchale. La porte de l'antichambre était ouverte. Deux bichons à vannet accoururent, une voix cria. « Delphine ! Delphine ! Est-ce vous, Félix ?» Il se tenait sans avancer. Les deux petits chiens jappaient toujours. Enfin, Rosanette parut, enveloppée dans une sorte de peignoir en mousseline blanche garni de dentelles, pieds nus dans des babouches. « Ah, pardon, monsieur, je vous prenais pour le coiffeur. Une minute, je reviens. » Et il resta seul dans la salle à manger. Les persiennes en étaient closes. Frédéric la parcourait des yeux en se rappelant le tapage de l'autre nuit, lorsqu'il remarqua, au milieu, sur la table, un chapeau d'homme, un vieux feutre, bossué, gras, immonde. À qui donc ce chapeau? Montrant impudemment sa coiffe décousue, il semblait dire « Je m'en moque après tout, je suis le maître ». La maréchale survint. Elle le prit, ouvrit la serre, l'y jeta, referma la porte. D'autres portes en même temps s'ouvraient et se refermaient. Et ayant fait passer Frédéric par la cuisine, elle l'introduisit dans son cabinet de toilette. On voyait tout de suite que c'était l'endroit de la maison le plus hanté et comme son vrai centre moral. Une perse à grand feuillage tapissait les murs, les fauteuils et un vaste divan élastique. Sur une table de marbre blanc s'espaçaient deux larges cuvettes en faïence bleue. Des planches de cristal, formant étagères au-dessus, étaient encombrées par des fioles, des brosses, des peignes, des bâtons de cosmétiques, des boîtes à poudre. Le feu se mirait dans une haute psyché. Un drap pendait en dehors d'une baignoire, et des senteurs de pâte d'amande et de banjoin s'exhalaient. « Vous excuserez le désordre, ce soir je dîne en ville !» Et, comme elle tournait sur ses talons, elle faillit écraser un des petits chiens. Frédéric les déclara charmants. Elle les souleva tous les deux, et haussant jusqu'à lui leur museau noir, « Voyons, faites une risette! Baisez le monsieur !» Un homme, habillé d'une sale redingote à collet de fourrure, entra brusquement. « Félix, mon brave, » dit-elle. « Vous aurez votre affaire dimanche prochain, sans faute. » L'homme se mit à la coiffer. Il lui apprenait des nouvelles de ses amis, Madame de Rochegune, Madame de Saint-Florentin, Madame Lombard, tout étant noble, comme à l'hôtel d'Ambreuse. Puis il causa théâtre. On donnait le soir à l'ambigu une représentation extraordinaire. « Irez-vous ?»« Ma foi, non, je reste chez moi. » Delphine parut. Elle la gronda pour être sortie sans sa permission. L'autre jura qu'elle rentrait du marché. « Eh bien, apportez-moi votre livre !»« Vous permettez, n'est-ce pas ? Et lisant à demi-voix le cahier, Rosanette faisait des observations sur chaque article. L'addition était fausse. « Rendez-moi 4 sous !» Delphine les rendit, et quand elle l'eut congédié, « Oh, Sainte Vierge, est-on assez malheureux avec ces gens-là ? » Frédéric fut choqué de cette récrimination. Elle lui rappelait trop les autres, et établissait entre les deux maisons une sorte d'égalité fâcheuse. Delphine, étant revenue, s'approcha de la maréchale pour chuchoter un mot à son oreille. « Eh non, je n'en veux pas !» Delphine se présenta de nouveau. « Madame, elle insiste !»« Oh, quel embêtement ! Flanque-la dehors !» Au même instant, une vieille dame, habillée de noir, poussa la porte. Frédéric n'entendit rien, ne vit rien. Rosanette s'était précipitée dans la chambre à sa rencontre. Quand elle reparut, elle avait les pommettes rouges et elle s'assit dans un des fauteuils sans parler. Une larme tomba sur sa joue. Puis, se tournant vers le jeune homme, doucement, « Quel est votre petit nom ?»« Frédéric. »« Ah, Federico, ça ne vous gêne pas que je vous appelle comme ça ?» Et elle le regardait d'une façon câline, presque amoureuse. Tout à coup, elle poussa un cri de joie à la vue de Mademoiselle Vatnaz. La femme artiste n'avait pas de temps à perdre, devant, à 6 heures juste, présider sa table d'hôte, et elle haletait, n'en pouvant plus. D'abord, elle retira de son cabas une chaîne de montre avec un papier, puis différents objets, des acquisitions. « Tu sauras qu'il y a, rue Joubert, des gants de Suède à 36 sous. Magnifique ! Ton teinturier demande encore 8 jours. Pour la guipure, j'ai dit qu'on repasserait. » Bugnot a reçu la compte. « Voilà tout, il me semble. C'est 185 francs que tu me dois. » Rosanette alla prendre dans un tiroir 10 napoléons. Aucune des deux n'avait de monnaie. Frédéric en offrit. « Je vous les rendrai, » dit la Vatnaz, en fourrant les 15 francs dans son sac. « Mais vous êtes un vilain. Je ne vous aime plus. Vous ne m'avez pas fait danser une seule fois l'autre jour. »« Ah, ma chère, j'ai découvert qu'est Voltaire à une boutique un cadre d'oiseaux-mouches empaillés qui sont des amours. À ta place, je me les donnerai. Tiens, comment trouves-tu ?» Et elle exhiba un vieux coupon de soie rose qu'elle avait acheté au temple pour faire un pourpoint Moyen-Âge à Delmar. « Il est venu aujourd'hui, n'est-ce pas ?»« Non. »« C'est singulier. » Et une minute après, « Où vas-tu ce soir ?»« Chez Alphonsine, » dit Rosanette. Ce qui était la troisième version sur la manière dont elle devait passer la soirée. Mademoiselle Vatnaz reprit « Et le vieux de la montagne, quoi de neuf ? » Mais d'un brusque clin d'œil, la maréchale lui commanda de se taire, et elle reconduisit Frédéric jusque dans l'antichambre pour savoir s'il verrait bientôt Arnoux. « Priez-le donc de venir, pas devant son épouse, bien entendu. » Au haut des marches, un parapluie était posé contre le mur, près d'une paire de socs. « Les caoutchoucs de la Vatnaz !» dit Rosanette. « Quel pied, hein ! Elle est forte, ma petite amie !» Et d'un ton mélodramatique, en faisant rouler la dernière lettre du mot, « Ne pas s'y fier !» Frédéric, enhardi par cette espèce de confidence, voulut la baiser sur le col. Elle dit froidement, « Oh, faites, ça ne coûte rien !» Il était léger en sortant de là, ne doutant pas que la maréchale ne devint bientôt sa maîtresse. Ce désir en éveilla un autre, et malgré l'espèce de rancune qu'il lui gardait, il eut envie de voir Madame Arnoux. D'ailleurs, il devait y aller pour la commission de Rosanette. Mais à présent, songea-t-il, 6 heures sonnaient. Arnoux est chez lui, sans doute. Il ajourna sa visite au lendemain. Elle se tenait dans la même attitude que le premier jour et cousait une chemise d'enfant. Le petit garçon, à ses pieds, jouait avec une ménagerie de bois. Marthe, un peu plus loin, écrivait. Il commença par la complimenter de ses enfants. Elle répondit sans aucune exagération de bêtises maternelles. La chambre avait un aspect tranquille, un beau soleil passait par les carreaux, les angles des meubles reluisaient, et comme Madame Arnoux était assise auprès de la fenêtre, un grand rayon, frappant les accroche-cœurs de sa nuque, pénétrait d'un fluide d'or sa peau ambrée. Alors il lui dit « Voilà une jeune personne qui est devenue bien grande depuis 3 ans. Vous rappelez-vous, mademoiselle, quand vous dormiez sur mes genoux dans la voiture ?» Marthe ne se rappelait pas. « Un soir, en revenant de Saint-Cloud, Madame Arnoux eut un regard singulièrement triste. Était-ce pour lui défendre toute allusion à leurs souvenirs communs ? Ses beaux yeux noirs, dont la sclérotique brillait, se mouvaient doucement sous leurs paupières un peu lourdes, et il y avait dans la profondeur de ses prunelles une bonté infinie. Il fut ressaisi par un amour plus fort que jamais, immense. C'était une contemplation qui l'engourdissait. Il la secoua pourtant. Comment se faire valoir ? Par quels moyens ? Et ayant bien cherché, Frédéric ne trouva rien de mieux que l'argent. Il se mit à parler du temps, lequel était moins froid qu'au Havre. « Vous y avez été ?»« Oui, pour une affaire de famille, un héritage. »« Ah, j'en suis bien contente !» reprit-elle avec un air de plaisir tellement vrai qu'il en fut touché comme d'un grand service. Puis elle lui demanda ce qu'il voulait faire, un homme devant s'employer à quelque chose. Il se rappela son mensonge et dit qu'il espérait parvenir au Conseil d'État, grâce à M. d'Ambreuse, le député. « Vous le connaissez peut-être ?»« De nom seulement. » Puis d'une voix basse, « Il vous a mené au bal l'autre jour, n'est-ce pas ?» Frédéric se taisait. « C'est ce que je voulais savoir. Merci. » Ensuite, elle lui fit 2 ou 3 questions discrètes sur sa famille et sa province. C'était bien aimable d'être resté là-bas si longtemps sans les oublier. « Mais le pouvais-je » reprit-il. « En doutiez-vous ? » Madame Arnoux se leva. « Je crois que vous nous portez une bonne et solide affection. Adieu. Au revoir. » Et elle tendit sa main d'une manière franche et virile. N'était-ce pas un engagement, une promesse ? Frédéric se sentait tout joyeux de vivre. Il se retenait pour ne pas chanter. Il avait besoin de se répandre, de faire des générosités et des aumônes. Il regarda autour de lui s'il n'y avait personne à secourir. Aucun misérable ne passait, et sa velléité de dévouement s'évanouit, car il n'était pas homme à en chercher au loin les occasions. Puis il se ressouvint de ses amis. Le premier auquel il songea fut Hussonnet, le second Pellerin. La position infime de Dussardier commandait naturellement des égards. Quant à Sisy, il se réjouissait de lui faire voir un peu sa fortune. Il écrivit donc à tous les 4 de venir pendre la crémaillère le dimanche suivant, à 11 heures juste, et il chargea des lauriers d'amener Sénécal. Le répétiteur avait été congédié par son 3e pensionnat pour n'avoir point voulu de distribution de prix, usage qu'il regardait comme funeste à l'égalité. Il était maintenant chez un constructeur de machines et n'habitait plus avec des lauriers depuis 6 mois. Leur séparation n'avait eu rien de pénible. Sénécal, dans les derniers temps, recevait des hommes en blouse, tous patriotes, tous travailleurs, tous braves gens, mais dont la compagnie semblait fastidieuse à l'avocat. D'ailleurs, certaines idées de son ami, excellentes comme arme de guerre, lui déplaisaient. Il s'entaisait par ambition, tenant à le ménager pour le conduire, car il attendait avec impatience un grand bouleversement où il comptait bien faire son trou, avoir sa place. Les convictions de Sénécal étaient plus désintéressées. Chaque soir, quand sa besogne était finie, il regagnait sa mansarde et il cherchait dans les livres de quoi justifier ses rêves. Il avait annoté le contrat social, il se bourrait de la Revue indépendante, il connaissait Mably, Morelli, Fourier, Saint-Simon, Comte, Cabet, Louis Blanc, la lourde charretée des écrivains socialistes, ceux qui réclament pour l'humanité le niveau des casernes, ceux qui voudraient la divertir dans un lupanard ou la plier sur un comptoir. Et du mélange de tout cela, il s'était fait un idéal de démocratie vertueuse, ayant le double aspect d'une métairie et d'une filature, une sorte de lacédémone américaine où l'individu n'existerait que pour servir la société, plus omnipotente, absolue, infaillible et divine que les grands lamas et les Nabucodonosors. Il n'avait pas un doute sur l'éventualité prochaine de cette conception, et tout ce qu'il jugeait lui être hostile, Sénécal s'acharnait dessus avec des raisonnements de géomètre et une bonne foi d'inquisiteur. Les titres nobiliaires, les croix, les panaches, les livrées surtout, et même les réputations trop sonores le scandalisaient. Ses études comme ses souffrances avivant chaque jour sa haine essentielle de toute distinction ou supériorité quelconque. Qu'est-ce que je dois à ce monsieur pour lui faire des politesses? S'il voulait de moi, il pouvait venir. Des Lauriers l'entraîna. Ils trouvèrent leur ami dans sa chambre à coucher. Store et double rideau, glace de Venise, rien n'y manquait. Frédéric, en veste de velours, était renversé dans une bergère où il fumait des cigarettes de tabac turc. Sénécal se rembrunit, comme les cagots amenés dans les réunions de plaisir. Des Lauriers embrassa tout d'un seul coup d'œil, puis, le saluant très bas, « Monseigneur, je vous présente mes respects. » Dussardier lui sauta au cou. « Vous êtes donc riche maintenant ?»« Ah, tant mieux, nom d'un chien, tant mieux !» Sisy parut, avec un crêpe à son chapeau. Depuis la mort de sa grand-mère, il jouissait d'une fortune considérable et tenait moins à s'amuser qu'à se distinguer des autres, à n'être pas comme tout le monde, enfin à avoir du cachet. C'était son mot. Il était midi, cependant, et tous bâillaient. Frédéric attendait quelqu'un. Au nom d'Arnoux, Pellerin fit la grimace. Il le considérait comme un renégat depuis qu'il avait abandonné les arts. « Si l'on se passait de lui, qu'en dites-vous ?» Tous approuvèrent. Un domestique en longue guêtre ouvrit la porte et l'on aperçut la salle à manger, avec sa haute plinthe en chêne relevée d'or et ses deux dressoirs chargés de vaisselle. Les bouteilles de vin chauffaient sur le poêle. Les lames des couteaux neufs miroitaient près des huîtres. Il y avait dans le ton laiteux des verres mousseline comme une douceur engageante. Et la table disparaissait sous du gibier, des fruits, des choses extraordinaires. Ses attentions furent perdues pour Sénécal. Il commença par demander du pain de ménage, le plus ferme possible, et à ce propos parla des meurtres de Buzancay et de la crise des subsistances. Rien de tout cela ne serait survenu si on protégeait mieux l'agriculture, si tout n'était pas livré à la concurrence, à l'anarchie, à la déplorable maxime du « laisser faire, laisser passer ». Voilà comment se constituait la féodalité de l'argent, pire que l'autre. Mais qu'on y prenne garde, le peuple, à la fin, se lassera et pourrait faire payer ses souffrances aux détenteurs du capital, soit par de sanglantes proscriptions ou par le pillage de leurs hôtels. Frédéric entrevit dans un éclair un flot d'hommes aux bras nus envahissant le grand salon de Madame d'Ambreuse, cassant les glaces à coups de pique. Sénécal continuait. L'ouvrier, vu l'insuffisance des salaires, était plus malheureux que l'ilote, le nègre et le paria, s'il a des enfants surtout. Doit-il s'en débarrasser par l'asphyxie, comme le lui conseille je ne sais plus quel docteur anglais, issu de Malthus. » Et se tournant vers Sisi, « Et serons-nous réduits au conseil de l'infâme Malthus ?» Sisi, qui ignorait l'infamie et même l'existence de Malthus, répondit qu'on secourait pourtant beaucoup de misère, et que les classes élevées... « Oh, les classes élevées !» dit en ricanant le socialiste. « D'abord, il n'y a pas de classe élevée. On n'est élevé que par le cœur. Nous ne voulons pas d'aumône, entendez-vous, mais l'égalité, la juste répartition des produits. » Ce qu'il demandait, c'est que l'ouvrier pût devenir capitaliste, comme le soldat colonel. Les jurandes, au moins, en limitant le nombre des apprentis, empêchaient l'encombrement des travailleurs, et le sentiment de la fraternité se trouvait entretenu par les fêtes, les bannières. Ussonnet, comme poète, regrettait les bannières. Pellerin aussi, prédilection qui lui était venue au café d'Agneau en écoutant causer des phalanstériens. Il déclara Fourier un grand homme. « Allons donc, » dit Deslauriers, « une vieille bête qui voit dans les bouleversements d'Empire des effets de la vengeance divine. C'est comme le sieur Saint-Simon et son Église avec sa haine de la Révolution française. Un tas de farceurs qui voudraient nous refaire le catholicisme. » Monsieur de Sisi, pour s'éclairer, sans doute, ou donner de lui une bonne opinion, se mit à dire doucement « Ces deux savants ne sont donc pas de l'avis de Voltaire ?»«
Celui-là, je vous l'abandonne, » reprit Sénécal.
« Comment ? Moi, je croyais. »
« Eh non, il n'aimait pas le peuple. »
Puis la conversation descendit aux événements contemporains. Les mariages espagnols, les dilapidations de Rochefort, le nouveau chapitre de Saint-Denis, ce qui amènerait un redoublement d'impôts. Selon Sénécal, on en payait assez, cependant.
« Et pourquoi, mon Dieu ? Pour élever des palais aux singes du muséum ? Faire parader sur nos places de brillants états-majors ? Ou soutenir parmi les valets du château une étiquette gothique ?»
J'ai lu dans La Mode, dit Sisi, qu'à la Saint-Ferdinand, au bal des Tuileries, tout le monde était déguisé en chicard.
Si ce n'est pas pitoyable, fit le socialiste en haussant de dégoût les épaules.
Et le musée de Versailles ? S'écria Pellerin.
Parlons-en. Ces imbéciles-là ont raccourci un Delacroix et rallongé un Gros. Au Louvre, on a si bien restauré, gratté et tripoté toute l'étoile que dans 10 ans, peut-être pas une ne restera.
Quant aux erreurs du catalogue, un Allemand a écrit dessus tout un livre.
Les étrangers, ma parole, se fichent de nous.
Oui, nous sommes la risée de l'Europe, dit Sénécal.
C'est parce que l'art est inféodé à la couronne.
Tant que vous n'aurez pas le suffrage universel...
Permettez, car l'artiste, refusé depuis 20 ans à tous les salons, était furieux contre le pouvoir. Eh, qu'on nous laisse tranquille, moi je ne demande rien. Seulement, les chambres devraient statuer sur les intérêts de l'art. Il faudrait établir une chaire d'esthétique, et dont le professeur, un homme à la fois praticien et philosophe, parviendrait, j'espère, à grouper la multitude. « Vous feriez bien, Ussonnet, de toucher un mot de ça dans votre journal. »«
Est-ce que les journaux sont libres ? Est-ce que nous le sommes ?» dit Deslauriers avec emportement.
« Quand on pense qu'il peut y avoir jusqu'à 28 formalités pour établir un batelet sur une rivière, ça me donne envie d'aller vivre chez les anthropophages. Le gouvernement nous dévore. Tout est à lui. » La philosophie, le droit, les arts, l'art du ciel. Et la France râle, énervée, sous la botte du gendarme et la soutane du calotin.
Le futur Mirabeau épanchait ainsi sa bile largement. Enfin, il prit son verre, se leva, et, le poing sur la hanche, l'œil allumé,
« Je bois à la destruction complète de l'ordre actuel, c'est-à-dire de tout ce qu'on nomme,
privilèges, monopoles, direction, hiérarchie, autorité, état. Et d'une voix plus haute, que je voudrais briser comme ceci. En lançant sur la table le beau verre à pâte qui se fracassa en mille morceaux. Tous applaudirent, et Dussardier principalement. Le spectacle des injustices lui faisait bondir le cœur. Il s'inquiétait de Barbès. Il était de ceux qui se jettent sous les voitures pour porter secours aux chevaux tombés. Son érudition se bornait à deux ouvrages, l'un intitulé « Crimes des rois », l'autre « Mystère du Vatican ». Il avait écouté l'avocat bouche béante avec délice. Enfin, n'y tenant plus. « Moi, ce que je reproche à Louis-Philippe, c'est d'abandonner les Polonais. »
« Un moment, » dit Hussonnet. « D'abord, la Pologne n'existe pas. C'est une invention de Lafayette. Les Polonais, règle générale, sont tous du faubourg Saint-Marceau. Les véritables s'étant noyés avec Poniatowski. »
Bref, il ne donnait plus là-dedans. Il était revenu de tout ça. C'était comme le serpent de mer, la révocation de l'édit de Nantes, et cette vieille blague de la Saint-Barthélemy. Sénécal, sans défendre les Polonais, releva les derniers mots de l'homme de lettres. On avait calomnié les papes, qui, après tout, défendaient le peuple. Et il appelait la Ligue l'aurore de la démocratie, un grand mouvement égalitaire contre l'individualisme des protestants. Frédéric était un peu surpris par ces idées. Elles ennuyaient Sisy, probablement, car il mit la conversation sur les tableaux vivants du gymnase, qui attiraient alors beaucoup de monde. Sénécal s'en affligea. De tels spectacles corrompaient les filles du prolétaire. Puis on les voyait étaler un luxe insolent. Aussi approuvait-il les étudiants bavarois qui avaient outragé Lola Montes. À l'instar de Rousseau, il faisait plus de cas de la femme d'un charbonnier que de la maîtresse d'un roi. « Vous blaguez des truffes !» répliqua majestueusement Hussonnet. Et il prit la défense de ces dames en faveur de Rosanette. Puis, comme il parlait de son bal et du costume d'Arnoux, « On prétend qu'il branle dans le manche ?» dit Pellerin. Le marchand de tableaux venait d'avoir un procès pour ses terrains de Belleville, et il était actuellement dans une compagnie de kaolins bas bretons avec d'autres farceurs de son espèce. Dussardier en savait davantage, car son patron à lui, M. Moussineau, ayant été aux informations sur Arnoux près du banquier Oscar Lefebvre, celui-ci avait répondu qu'il le jugeait peu solide, connaissant quelques-uns de ses renouvellements. Le dessert était fini, on passa dans le salon, tendu comme celui de la maréchale, en damas jaune et de style Louis XVI. Pellerin blâma Frédéric de n'avoir pas choisi plus tôt le style néo-grec. Sénécal frotta des allumettes contre les tentures. Deslauriers ne fit aucune observation. Il en fit dans la bibliothèque, qu'il appela une bibliothèque de petites filles. La plupart des littérateurs contemporains s'y trouvaient. Il fut impossible de parler de leurs ouvrages, car Hussonnet immédiatement contait des anecdotes sur leurs personnes, critiquait leurs figures, leurs mœurs, leurs costumes, exaltant les esprits de quinzième ordre, dénigrant ceux du premier et déplorant, bien entendu, la décadence moderne. Telle chansonnette de villageois contenait, à elle seule, plus de poésie que tous les lyriques du XIXe siècle. Balzac était surfait, Byron démoli, Hugo n'entendait rien au théâtre, etc. « Pourquoi donc, dit Sénécal, n'avez-vous pas les volumes de nos poètes ouvriers ?» Et M. de Sisy, qui s'occupait de littérature, s'étonna de ne pas voir sur la table de Frédéric quelques-unes de ces physiologies nouvelles, physiologie du fumeur, du pêcheur à la ligne, de l'employé de barrière. Ils arrivèrent à l'agacer tellement qu'il eut envie de les pousser dehors par les épaules.
mais je deviens bête. » Et prenant du sardier à l'écart, il lui demanda s'il pouvait le servir en quelque chose. Le brave garçon fut attendri. Avec sa place de caissier, il n'avait besoin de rien. Ensuite, Frédéric emmena Delaurier dans sa chambre et, tirant de son secrétaire 2000 francs, « Tiens, mon brave, en poche, c'est le reliquat de mes vieilles dettes. »«
Mais, et le journal ?» dit l'avocat.
« J'en ai parlé à Hussonnet, tu sais bien. » Et Frédéric ayant répondu qu'il se trouvait un peu gêné maintenant, l'autre eut un mauvais sourire. Après les liqueurs, on but de la bière. Après la bière, des grogues. On refuma des pipes. Enfin, à 5 heures du soir, tous s'en allèrent. Et ils marchaient les uns près des autres, sans parler, quand Dussardier se mit à dire que Frédéric les avait reçus parfaitement. Tous en convinrent. Hussonnet déclara son déjeuner un peu trop lourd. Sénécal critiqua la futilité de son intérieur. Sisyphe pensait de même. Cela manquait de cachet, absolument. « Moi, je trouve, dit Pellerin, qu'il aurait bien pu me commander un tableau. » Delaurier se taisait, en tenant dans la poche de son pantalon ses billets de banque. Frédéric était resté seul. Il pensait à ses amis et sentait entre eux et lui comme un grand fossé plein d'ombre qui les séparait. Il leur avait tendu la main, cependant, et il n'avait pas répondu à la franchise de son cœur. Il se rappela les mots de Pellerin et de Dussardier sur Arnoux. C'était une invention, une calomnie sans doute. Mais pourquoi? Et il aperçut Madame Arnoux, ruinée, pleurant, vendant ses meubles. Cette idée le tourmenta toute la nuit. Le lendemain, il se présenta chez elle. Ne sachant comment s'y prendre pour communiquer ce qu'il savait, il lui demanda, en manière de conversation, si Arnoux avait toujours ses terrains de Belleville. « Oui, toujours. » « Il est maintenant dans une compagnie près du Kaolin de Bretagne, je crois. »«
C'est vrai. » »«
Sa fabrique marche très bien, n'est-ce pas ?»«
Mais je le suppose. »
Et comme il hésitait, « Qu'avez-vous donc? Vous me faites peur. » Il lui apprit l'histoire des renouvellements. Elle baissa la tête et dit « Je m'en doutais ». En effet, Arnoux, pour faire une bonne spéculation, s'était refusé à vendre ses terrains, avait emprunté dessus largement et, ne trouvant point d'acquéreur, avait cru se rattraper par l'établissement d'une manufacture. Les frais avaient dépassé les devis. Elle n'en savait pas davantage. Il éludait toute question et affirmait continuellement que « ça allait très bien ». Frédéric tâcha de la rassurer. C'était peut-être des embarras momentanés. Du reste, s'il apprenait quelque chose, il lui en ferait part. « Oh oui, n'est-ce pas ? » dit-elle en joignant ses deux mains avec un air de supplication charmant. Il pouvait donc lui être utile, le voilà qui entrait dans son existence. Dans son cœur. Arnoux parut. « Ah, comme c'est gentil de venir me prendre pour dîner !» Frédéric en resta muet. Arnoux parla de choses indifférentes, puis avertit sa femme qu'il rentrerait fort tard, ayant un rendez-vous avec M. Oudry.
« Chez lui ?»«
Mais certainement, chez lui. » Il avoua, tout en redescendant l'escalier, que la maréchale se trouvant libre, ils allaient faire ensemble une partie fine au Moulin Rouge, et comme il lui fallait toujours quelqu'un pour recevoir ses épanchements, il se fit conduire par Frédéric jusqu'à la porte. Au lieu d'entrer, il se promena sur le trottoir en observant les fenêtres du second étage. Tout à coup, les rideaux s'écartèrent. « Ah, bravo! Le père Oudry n'y est plus. Bonsoir !» C'était donc le père Oudry qu'il entretenait? Frédéric ne savait que penser maintenant. À partir de ce jour-là, Arnoux fut encore plus cordial qu'auparavant. Il l'invitait à dîner chez sa maîtresse, et bientôt Frédéric hanta tout à la fois les deux maisons.
celle de Rosanette l'amusait. On venait là le soir, en sortant du club ou du spectacle. On prenait une tasse de thé, on faisait une partie de loto. Le dimanche, on jouait des charades. Rosanette, plus turbulente que les autres, se distinguait par des inventions drôlatiques, comme de courir à quatre pattes ou de s'affubler d'un bonnet de coton. Pour regarder les passants par la croisée, elle avait un chapeau de cuir bouilli. Elle fumait des chibouks, elle chantait des tyroliennes. L'après-midi, par désœuvrement, elle découpait des fleurs dans un morceau de toile perse, les collait elle-même sur ses carreaux, barbouillait de phare ses deux petits chiens, faisait brûler des pastilles ou se tirait la bonne aventure. Incapable de résister à une envie, elle s'engouait d'un bibelot qu'elle avait vu, n'en dormait pas, courait l'acheter, le troquait contre un autre et gâchait les étoffes, perdait ses bijoux, gaspillait l'argent, aurait vendu sa chemise pour une loge d'avant-scène. Souvent, elle demandait à Frédéric l'explication d'un mot qu'elle avait lu, mais n'écoutait pas sa réponse, car elle sautait vite à une autre idée en multipliant les questions. Après des spasmes de gaieté, c'était des colères enfantines. Ou bien elle rêvait, assise par terre, devant le feu, la tête basse et le genou dans ses deux mains, plus inerte qu'une couleuvre engourdie. Sans y prendre garde, elle s'habillait devant lui, tirait avec lenteur ses bas de soie, puis se lavait à grande eau le visage, en se renversant la taille comme une naïade qui frissonne. Et le rire de ses dents blanches, les étincelles de ses yeux, sa beauté, sa gaieté, éblouissaient Frédéric et lui fouettaient les nerfs. Presque toujours, il trouvait Madame Arnoux montrant à lire à son bambin, ou derrière la chaise de Marthe qui faisait des gammes sur son piano. Quand elle travaillait à un ouvrage de couture, c'était pour lui un grand bonheur que de ramasser quelquefois ses ciseaux. Tous ses mouvements étaient d'une majesté tranquille. Ses petites mains semblaient faites pour répandre des aumônes, pour essuyer des pleurs. Et sa voix, un peu sourde naturellement, avait des intonations caressantes et comme des légèretés de brise. Elle ne s'exaltait point pour la littérature, mais son esprit charmait par des mots simples et pénétrants. Elle aimait les voyages, le bruit du vent dans les bois, et à se promener tête nue sous la pluie. Frédéric écoutait ces choses délicieusement, croyant voir un abandon d'elle-même qui commençait. La fréquentation de ces deux femmes faisait dans sa vie comme deux musiques. L'une folâtre, emportée, divertissante, l'autre grave et presque religieuse. Et, vibrant à la fois, elles augmentaient toujours et peu à peu se mêlaient. Car si Madame Arnoux venait à l'effleurer du doigt seulement, l'image de l'autre tout de suite se présentait à son désir, parce qu'il avait de ce côté-là une chance moins lointaine. Et dans la compagnie de Rosanette, quand il lui arrivait d'avoir le cœur ému, il se rappelait immédiatement son grand amour. Cette confusion était provoquée par des similitudes entre les deux logements. Un des bahuts que l'on voyait autrefois boulevard Montmartre ornait à présent la salle à manger de Rosanette. L'autre, le salon de Madame Arnoux. Dans les deux maisons, les services de table étaient pareils, et l'on retrouvait jusqu'à la même calotte de velours traînant sur les bergères. Puis une foule de petits cadeaux, des écrans, des boîtes, des éventails, allaient et venaient de chez la maîtresse chez l'épouse, car, sans la moindre gêne, Arnoux souvent reprenait à l'une ce qu'il lui avait donné pour l'offrir à l'autre. La maréchale riait avec Frédéric de ses mauvaises façons. Un dimanche, après dîner, elle l'emmena derrière la porte et lui fit voir dans son paletot un sac de gâteaux qu'il venait d'escamoter sur la table afin d'en régaler sans doute sa petite famille. Monsieur Arnoux se livrait à des espiègleries côtoyant la turpitude. C'était pour lui un devoir que de frauder l'octroi. Il n'allait jamais au spectacle en payant, avec un billet de seconde, prétendait toujours se pousser aux premières. et racontait comme une farce excellente qu'il avait coutume, au bain froid, de mettre dans le tronc du garçon un bouton de culotte pour une pièce de 10 sous. Ce qui n'empêchait point la maréchale de l'aimer. Un jour, cependant, elle dit, en parlant de lui, « Ah, il m'embête à la fin, j'en ai assez. Ma foi, tant pis, j'en trouverai un autre. » Frédéric croyait l'autre déjà trouvé, et qu'il s'appelait Monsieur Oudry. « Eh bien, dit Rosanette, qu'est-ce que cela fait ?» Puis, avec des larmes dans la voix, « Je lui demande bien peu de choses pourtant, et il ne veut pas l'animal, il ne veut pas. Quant à ses promesses, oh, c'est différent. » Il lui avait même promis un quart de ses bénéfices dans les fameuses mines de Kaola. Aucun bénéfice ne se montrait, pas plus que le cachemire dont il l'allerait depuis 6 mois. Frédéric pensa immédiatement à lui en faire cadeau. Arnoux pouvait prendre cela pour une leçon et se fâcher. Il était bon cependant. Sa femme elle-même le disait. Mais si fou! Au lieu d'amener tous les jours du monde à dîner chez lui, à présent, il traitait ses connaissances chez le restaurateur. Il achetait des choses complètement inutiles, telles que des chaînes d'or, des pendules, des articles de ménage. Madame Arnoux montra même à Frédéric, dans le couloir, une énorme provision de bouillottes, chaufferettes et samovars. Enfin, un jour, elle avoua ses inquiétudes. Arnoux lui avait fait signer un billet, souscrit à l'ordre de Monsieur Dampreuse. Cependant, Frédéric conservait ses projets littéraires, par une sorte de point d'honneur vis-à-vis de lui-même. Il voulut écrire une histoire de l'esthétique, résultat de ses conversations avec Pellerin, puis mettre en drame différentes époques de la Révolution française, et composer une grande comédie, par l'influence indirecte de Deslauriers et du Sonnet. Au milieu de son travail, souvent le visage de l'une ou de l'autre passait devant lui. Il luttait contre l'envie de la voir, ne tardait pas à y céder. Et il était plus triste en revenant de chez Madame Arnoux. Un matin, qu'il ruminait sa mélancolie au coin de son feu, Deslauriers entra. Les discours incendiaires de Sénécal avaient inquiété son patron, et une fois de plus, il se trouvait sans ressources. « Que veux-tu que j'y fasse ?» dit Frédéric. « Rien. Tu n'as pas d'argent, je le sais. Mais ça ne te gênerait guère de lui découvrir une place, soit par Monsieur Dampreuse ou bien Arnoux. » Celui-ci devait avoir besoin d'ingénieurs dans son établissement. Frédéric eut une inspiration. Sénécal pourrait l'avertir des absences du mari, porter des lettres, l'aider dans 1000 occasions qui se présenteraient. D'homme à homme, on se rend toujours ces services-là. D'ailleurs, il trouverait moyen de l'employer sans qu'il s'en doutât. Le hasard lui offrait un auxiliaire. C'était de bon augure. Il fallait le saisir. Et, affectant de l'indifférence, il répondit que la chose peut-être était faisable et qu'il s'en occuperait. Il s'en occupa tout de suite. Arnoux se donnait beaucoup de peine dans sa fabrique. Il cherchait le rouge de cuivre des Chinois. Mais ses couleurs se volatilisaient par la cuisson. Afin d'éviter les gerçures de ses faïences, il mêlait de la chaux à son argile. Mais les pièces se brisaient pour la plupart. L'émail de ses peintures surcrues bouillonnait, ses grandes plaques gondolaient. Et attribuant ses mécomptes au mauvais outillage de sa fabrique, il voulait se faire faire d'autres moulins à broyer, d'autres séchoirs. Frédéric se rappela quelques-unes de ces choses, et il l'aborda en annonçant qu'il avait découvert un homme très fort, capable de trouver son fameux rouge. Arnaud en fit un bond, puis l'ayant écouté, répondit qu'il n'avait besoin de personne. Frédéric exalta les connaissances prodigieuses de Sénécal, tout à la fois ingénieur, chimiste et comptable, étant un mathématicien de première force. Le faïencier consentit à le voir. Tous deux se chamaillèrent sur les émoluments. Frédéric s'interposa et parvint, au bout de la semaine, à leur faire conclure un arrangement. Mais, l'usine étant située à Creil, Sénécal ne pouvait en rien l'aider. Cette réflexion, très simple, abattit son courage comme une mésaventure. Il songea que plus Arnoux serait détaché de sa femme, plus il aurait de chance auprès d'elle. Alors, il se mit à faire l'apologie de Rosanette, continuellement. Il lui représenta tous ses torts à son endroit, conta les vagues menaces de l'autre jour, et même parla du Cachemire, sans taire qu'elle l'accusait d'avarice. Arnoux, piqué du mot, et d'ailleurs concevant des inquiétudes, apporta le Cachemire à Rosanette, mais la gronda de s'être plainte à Frédéric. Comme elle disait lui en avoir 100 fois rappelé sa promesse, il prétendit qu'il ne s'en était pas souvenu, ayant trop d'occupations. Le lendemain, Frédéric se présenta chez elle. Bien qu'il fût 2 heures, la maréchale était encore couchée, et, à son chevet, Delmar, installée devant un guéridon, finissait une tranche de foie gras. Elle cria de loin « Je l'ai ! Je l'ai !» Puis, le prenant par les oreilles, elle l'embrassa au front, le remercia beaucoup, le tutoya, voulut même le faire asseoir sur son lit. Ses jolis yeux tendres pétillaient, sa bouche humide souriait, ses 2 bras ronds sortaient de sa chemise qui n'avait pas de manches. Et de temps à autre, il sentait, à travers la batiste, les fermes contours de son corps. Delmar, pendant ce temps-là, roulait ses prunelles. « Mais véritablement, mon ami, ma chère amie !» Il en fut de même les fois suivantes. Dès que Frédéric entrait, elle montait debout sur un coussin pour qu'il l'embrassât mieux, l'appelait un mignon, un chéri, mettait une fleur à sa boutonnière, arrangeait sa cravate. Ses gentillesses redoublaient toujours lorsque Delmar se trouvait là. Était-ce des avances ? Frédéric le crut. Quant à tromper un ami, Arnoux, à sa place ne s'en gênerait guère. Et il avait bien le droit de n'être pas vertueux avec sa maîtresse, l'ayant toujours été avec sa femme. Car il croyait l'avoir été, ou plutôt, il aurait voulu se le faire accroire, pour la justification de sa prodigieuse couardise. Il se trouvait stupide, cependant, et résolu de s'y prendre avec la maréchale carrément. Donc, une après-midi, comme elle se baissait devant sa commode, il s'approcha d'elle et eut un geste d'une éloquence si peu ambiguë qu'elle se redressa tout empourprée. Il recommença de suite. Alors, elle fondit en larmes, disant qu'elle était bien malheureuse et que ce n'était pas une raison pour qu'on la méprisât. Il réitéra ses tentatives. Elle prit un autre genre, qui fut de rire toujours. Il crut malin de riposter par le même ton et en l'exagérant. Mais il se montrait trop gai pour qu'elle le crût sincère, et leurs camarades faisaient obstacle à l'épanchement de toute émotion sérieuse. Enfin, un jour, elle répondit qu'elle n'acceptait pas les restes d'une autre. « Quelle autre ? Eh oui, il va retrouver Madame Arnoux !» Car Frédéric en parlait souvent. Arnoux, de son côté, avait la même manie. Elle s'impatientait à la fin d'entendre toujours vanter cette femme, et son imputation était une espèce de vengeance. Frédéric lui en garda rancune. Elle commençait, du reste, à l'agacer fortement. Quelquefois, se posant comme expérimentée, elle disait du mal de l'amour avec un rire sceptique qui donnait des démangeaisons de la gifler. Un quart d'heure après, c'était la seule chose qu'il y eût au monde, et, croisant ses bras sur sa poitrine, comme pour serrer quelqu'un, elle murmurait « Oh oui, c'est bon, c'est si bon !» les paupières entrecloses et à demi pâmées d'ivresse. Il était impossible de la connaître, de savoir, par exemple, si elle aimait Arnoux, car elle se moquait de lui et en paraissait jalouse. De même pour la Vatnaze, qu'elle appelait une misérable, et d'autrefois sa meilleure amie. Elle avait enfin sur toute sa personne et jusque dans le retroussement de son chignon quelque chose d'inexprimable qui ressemblait à un défi. Et il la désirait, pour le plaisir surtout de la vaincre et de la dominer. Comment faire ? Car souvent, elle le renvoyait sans nulle cérémonie, apparaissant une minute entre deux portes pour chuchoter « Je suis occupée, à ce soir !» Ou bien il la trouvait au milieu de 12 personnes. Et quand ils étaient seuls, on aurait juré une gageure, tant les empêchements se succédaient. Il l'invitait à dîner, elle refusait toujours. Une fois, elle accepta, mais ne vint pas. Une idée machiavélique surgit dans sa cervelle. Connaissant par Dussardier les récriminations de Pellerin sur son compte, il imagina de lui commander le portrait de la maréchale, un portrait grandeur nature qui exigerait beaucoup de séances. Il n'en manquerait pas une seule. L'inexactitude habituelle de l'artiste faciliterait les tête-à-tête. Il engagea donc Rosanette à se faire peindre pour offrir son visage à son cher Arnoux. Elle accepta, car elle se voyait au milieu du grand salon, à la place d'honneur, avec une foule devant elle, et les journaux en parleraient, ce qui la lancerait tout à coup. Quant à Pellerin, il saisit la proposition avidement. Ce portrait devait le poser en grand homme, être un chef-d'œuvre. Il passa en revue dans sa mémoire tous les portraits de maîtres qu'il connaissait, et se décida finalement pour un Titien, lequel serait rehaussé d'ornement à la Véronèse. Donc, il exécuterait son projet sans ombre factice, dans une lumière franche, éclairant les chairs d'un seul ton et faisant étinceler les accessoires. « Si je lui mettais, pensa-t-il, une robe de soie rose avec un burnous oriental. Oh non, canaille le burnous. Ou plutôt, si je l'habillais de velours bleu sur un fond gris, très coloré. On pourrait lui donner également une collerette de guipure blanche, avec un éventail noir et un rideau d'écarlate par derrière. » Et, cherchant ainsi, il élargissait chaque jour sa conception et s'en émerveillait. Il eut un battement de cœur quand Rosanette, accompagnée de Frédéric, arriva chez lui pour la première séance. Il la plaça debout, sur une manière d'estrade, au milieu de l'appartement. Et, en se plaignant du jour et regrettant son ancien atelier, il la fit d'abord s'accouder contre un piédestal, puis asseoir dans un fauteuil, et tour à tour, s'éloignant d'elle et s'en rapprochant pour corriger d'une chiquenaude les plis de sa robe, il la regardait les paupières entrecloses et consultait d'un mot Frédéric. « Eh bien non, s'écria-t-il, j'en reviens à mon idée. Je vous flanque en vénitienne. » Elle aurait une robe de velours ponceau avec une ceinture d'orfèvrerie, et sa large manche doublée d'hermine laisserait voir son bras nu qui toucherait à la balustrade d'un escalier montant derrière elle. À sa gauche, une grande colonne irait jusqu'au haut de la toile rejoindre des architectures, décrivant un arc. On apercevait en dessous, vaguement, des massifs d'orangers presque noirs, où se découperait un ciel bleu rayé de nuages blancs. Sur le balustre couvert d'un tapis, il y aurait dans un plat d'argent un bouquet de fleurs, un chapelet d'ambre, un poignard et un coffret de vieil ivoire un peu jaune, dégorgeant des sequins d'or. Quelques-uns, même, tombés par terre çà et là, formeraient une suite d'éclaboussures brillantes, de manière à conduire l'œil vers la pointe de son pied, car elle serait posée sur l'avant-dernière marche, dans un mouvement naturel et en pleine lumière. Il alla chercher une caisse à tableau, qu'il mit sur l'estrade pour figurer la marche. Puis il disposa comme accessoire sur un tabouret en guise de balustrade, sa vareuse, un bouclier, une boîte de sardines, un paquet de plumes, un couteau, et quand il eut jeté devant Rosanette une douzaine de gros sous, il lui fit prendre la pose. « Imaginez-vous que ces choses-là sont des richesses, des présences splendides. La tête un peu à droite. Parfait. Et ne bougez plus. Cette attitude majestueuse va bien à votre genre de beauté. » Elle avait une robe écossaise avec un gros manchon et se retenait pour ne pas rire. Quant à la coiffure, nous la mêlerons à un tortil de perles. Cela fait toujours bon effet dans les cheveux rouges. La maréchale se récria, disant qu'elle n'avait pas les cheveux rouges. « Laissez donc, le rouge des peintres n'est pas celui des bourgeois. » Il commença à esquisser la position des masses, et il était si préoccupé des grands artistes de la Renaissance qu'il en parlait. Pendant une heure, il rêva tout haut à ces existences magnifiques, pleines de génie, de gloire et de somptuosité, avec des entrées triomphales dans les villes et des galas à la lueur des flambeaux, entre des femmes à moitié nues, belles comme des déesses. Vous étiez faite pour vivre dans ce temps-là. Une créature de votre calibre aurait mérité un monseigneur. Rosanette trouvait ses compliments fort gentils. On fixa le jour de la séance prochaine. Frédéric se chargeait d'apporter les accessoires. Comme la chaleur du poêle l'avait étourdi quelque peu, ils s'en retournèrent à pied par la rue du Bac et arrivèrent sur le pont royal. Il faisait un beau temps âpre et splendide. Le soleil s'abaissait. Quelques vitres de maisons dans la cité brillaient au loin comme des plaques d'or, tandis que par derrière, à droite, les tours de Notre-Dame se profilaient en noir sur le ciel bleu, mollement baignées à l'horizon dans des vapeurs grises. Le vent souffla, et Rosanette ayant déclaré qu'elle avait faim, ils entrèrent à la pâtisserie anglaise. Des jeunes femmes, avec leurs enfants, mangeaient debout contre le buffet de marbre, où se pressaient, sous des cloches de verre, les assiettes de petits gâteaux. Rosanette avala deux tartes à la crème. Le sucre en poudre faisait des moustaches au coin de sa bouche. De temps à autre, pour l'essuyer, elle tirait son mouchoir de son manchon. Et sa figure ressemblait, sous sa capote de soie verte, à une rose épanouie entre ses feuilles. Ils se remirent en marche. Dans la rue de la Paix, elle s'arrêta, devant la boutique d'un orfèvre, à considérer un bracelet. Frédéric voulut lui en faire cadeau. « Non, dit-elle, garde ton argent. » Il fut blessé de cette parole. « Qu'a donc le Mimi ? On est triste ?» Et la conversation s'étant renouée, il en vint, comme d'habitude, à des protestations d'amour. « Tu sais bien que c'est impossible.
« Pourquoi ?»«
Ah, parce que... » Ils allaient côte à côte, elle appuyée sur son bras, et les volants de sa robe lui battaient contre les jambes. Alors il se rappela un crépuscule d'hiver, où sur le même trottoir, Madame Arnoux marchait ainsi à son côté. Et ce souvenir l'absorba tellement qu'il ne s'apercevait plus de Rosanette et n'y songeait pas. Elle regardait au hasard devant elle, tout en se laissant un peu traîner comme un enfant paresseux. C'était l'heure où l'on rentrait de la promenade et des équipages défilaient au grand trot sur le pavé sec. Les flatteries de pèlerins lui revenaient sans doute à la mémoire. Elle poussa un soupir. Ah! Il y en a qui sont heureuses. Je suis faite pour un homme riche, décidément. » Il répliqua d'un ton brutal. « Vous en avez un, cependant. » Car M. Oudry passait pour 3 fois millionnaire. « Elle ne demandait pas mieux que de s'en débarrasser. »
« Qui vous en empêche ?»
Et il exhala d'amères plaisanteries sur ce vieux bourgeois à perruque, lui montrant qu'une pareille liaison était indigne et qu'elle devait la rompre. « Oui, répondit la maréchale comme se parlant à elle-même. « C'est ce que je finirai par faire, sans doute. » Frédéric fut charmé de ce désintéressement. Elle se ralentissait, il la crut fatiguée. Elle s'obstina à ne pas vouloir de voiture, et elle le congédia devant sa porte, en lui envoyant un baiser du bout des doigts. Ah, quel dommage! Et songez que des imbéciles me trouvent riche! Il était sombre en arrivant chez lui.